Néma qui vous dit bien le bonjour. Elle a besoin d'attention aujourd'hui. On va essayer de faire fi de son museau. Simplement, vous donner quelques bases par rapport à ce qu'on va faire à travers les prochaines semaines. Comme je disais tout à l'heure, hier, on a annoncé la thématique de cette nouvelle année qui marque le 50e anniversaire de l'histoire de notre Église, 50 ans depuis la création de notre Église en 1971. Pour ceux qui savent mon anniversaire, ça veut dire que moi aussi, je deviens quinquagénaire. Cette année, je suis exactement le rythme de l'Église. Donc, cette année, on célèbre ce 50e anniversaire et bibliquement parlant, dans les termes utilisés dans la parole de Dieu, 50 ans, c'est ce qu'on appelle le jubilé. Donc, pour bien commencer cette année du jubilé, qui est aussi appelé dans d'autres passages une année de grâce, donc nous allons étudier deux passages connexes. Un dans lequel Jésus va parler à la congrégation ou à la synagogue de Nazareth dans le livre de Luc, et l'autre dans le 4, pour ceux qui veulent bien prendre des notes, le 4, versets 18 et 19. Et ça, on va l'étudier donc le dimanche matin. Mais les paroles que Jésus va prononcer, c'est un texte qui est écrit dans des rouleaux qu'on lui présente le jour où il va à la synagogue, et il lit ce passage dans le livre d'Ésaïe. Donc, le week-end, le dimanche, on va étudier pendant 7 semaines ce passage dans Luc 4, le verset 18 et 19. Par contre, pour la bénédiction matinale, je vous propose d'étudier ce texte, mais dans sa version de l'Ancien Testament, qui se trouve dans Ésaïe, au chapitre 61, qu'on trouve principalement dans le verset 1 et 2. Le texte dans Ésaïe est un peu plus long, il continue sur quelques versets encore, mais Jésus va se limiter aux versets 1 et 2 dans son exposition qu'on retrouve par la suite dans Luc au chapitre 4. Je pense qu'en faisant ainsi, on aura une bonne idée de ce qu'est le jubilé, une bonne idée de ce que ça représente d'être dans cette année de grâce, qu'est-ce que Dieu veut faire. Et je parlais avec mon épouse ce matin et je lui disais, si les gens saisissent pleinement le tout premier enseignement qu'on fait ce matin, leur année est déjà réussie. Donc, le week-end, le dimanche, l'étude sur Luc, et la semaine, notre étude sur le passage similaire dans Ésaïe au chapitre 61. Pourquoi 50 jours? Parce que le jubilé marque 50 ans, donc on va faire juste un parallèle entre année et journée. Donc pendant 50 jours, on va étudier ce passage important que vous connaissez bien, mais probablement que vous n'aurez pas étudié aussi méthodiquement, parce qu'on va s'arrêter à chacun des mots qui sont prononcés, en tout cas particulièrement durant la semaine. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ésaïe au chapitre 61, Ésaïe 61, et je lis pour vous du verset 1 au verset 3, bien que notre étude va se limiter au verset 1 et la première phrase du verset 2. Donc, Ésaïe 61 nous dit « L'Esprit du Seigneur et l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Bien entendu, comme j'ai dit, nous on s'arrête verset 1, et la première phrase du verset 2. Mais l'ensemble de ce passage dépend totalement sur la toute première phrase que nous étudions aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. En fait, je viens de faire un lapsus. Je vous ai dit qu'on étudiait cette première phrase aujourd'hui. On étudie cette première phrase cette semaine. Aujourd'hui, on étudie simplement le premier mot, l'Esprit. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Et je peux vous garantir, je relisais mes notes encore tout à l'heure, et je suis convaincu que si on saisit ce mot, si on le comprend, si on recherche ce que ça implique, je suis convaincu que non seulement notre année est réussie, mais notre année est révolutionnée par Dieu. Notre vie est totalement transformée si on saisit ce mot et si ce mot devient une réalité dans votre vie et dans notre vie. Rappelons-nous juste une chose. Ici, il est en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour. Donc cette onction, c'est l'Esprit du Seigneur. Et tout ce qu'il dit après, porter de bonnes nouvelles aux malheureux, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, publier une année de grâce, publier un jour de vengeance de Dieu, consoler les affligés, accorder aux affligés de Sion un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange. Tout ça vient à cause, en raison de l'Esprit de Dieu, de la présence de Dieu sur moi. Ici, bien sûr, c'est un passage messianique. Donc, on parle essentiellement de Jésus. Et Jésus, lorsqu'il va lire ce texte dans le Nouveau Testament, il va terminer au verset 2 qui dit « Publier une année de grâce de l'Éternel ». Et là, il va dire « Cette prophétie s'accomplit devant vous. Je suis l'accomplissement de cette prophétie ». Mais on va voir ce que ça représente pour nous et on va voir si cette prophétie s'accomplit en nous, puisque l'Esprit de Dieu est supposé habiter en nous. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça suscite? Alors le terme important ce matin, le terme « Ruach ». Je répète, « Ruach ». R-U-W-A-C-H. « Ruach ». R-U-W-A-C-H. C'est un terme important. Le terme « esprit » va revenir 378 fois dans l'Ancien Testament. Comme vous savez, le Nouveau Testament est écrit en grec et en araméen, mais principalement en grec. Et l'Ancien Testament est écrit principalement en hébreu. Donc, ce mot hébraïque, qu'on va retrouver donc dans l'Ancien Testament à maintes reprises, revient 378 fois. C'est donc un terme qui est quand même assez important. C'est un terme qui avait une signification dans la pensée, dans la culture, dans la compréhension du lecteur d'autrefois. Et quand on mentionnait le terme « roi », on mentionnait quelque chose que eux pouvaient saisir. Ils avaient différentes connotations qu'on va voir ce matin et qui est pour nous, qui sommes des néophytes en terminologie hébraïque, qui est beaucoup plus profond que la première lecture qu'on peut avoir. Lorsqu'on parle de « Ruach », pour ceux qui étudient un peu, la plupart du temps, on parle de puissance de Dieu, on parle de cette force qui émane de Dieu, et c'est vrai, mais ça ne veut pas juste dire cela, et principalement, ça ne veut pas dire cela. Il y a un sens beaucoup plus commun qui existe dans ce « Ruach » qu'on va partager ce matin, alors que la puissance en soi est une pensée qui est assez limitée dans les textes bibliques concernant le Ruach. Donc, allons-y. Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Esprit, donc le terme Ruach, qui veut dire dans son sens étymologique. Lorsqu'on regarde simplement le mot, sans les connotations spirituelles du terme, ça veut dire un souffle. Une respiration. Donc, Ésaïe est en train de dire, et Jésus va reprendre cette terminologie en disant, le souffle de Dieu, la respiration de Dieu est sur moi. Quand on parlait de souffle, on parlait à la base de la source initiale de vie. On se rappelle lorsque Adam et Ève ont été créés, la Bible nous dit que Dieu a soufflé un esprit de vie en Adam et qu'il est devenu d'une forme ou d'une masse qui était sans vie, il est devenu un être vivant. On se rappelle aussi lorsqu'on parle de la vallée des ossements, que le prophète va devoir, sur lesquels le prophète va devoir prophétiser. Ces os vont se rassembler, ils vont voir de la chair, des tendons, des muscles, de la peau se créer sur ces os qui vont être rassemblés, donc qui ne sont plus des os éparpillés, qui ne sont plus des squelettes, qui sont maintenant des corps, mais des corps qui ne sont pas vivants. Et lorsque le Seigneur va regarder cette vallée, il va se rendre compte, il va amener le prophète à cette conclusion que ce sont tout simplement un amas de corps reconstitués, oui, mais qui est sans vie. Et Dieu va appeler le prophète à prophétiser que le vent souffle. Et ce vent, c'est encore le ruah, qui est le vent souffle de vie initial chez Adam et Ève, qui ont été les premiers donc à être considérés comme des êtres vivants, insufflés par le souffle de vie de Dieu. Donc la première chose qu'on doit comprendre, notre vie, nous la devons à Dieu. Notre vie, nous la devons à Dieu. Si tu es vivant aujourd'hui, c'est que Dieu voulait que tu sois vivant. Tu aurais pu naître, comme je l'ai souvent dit, des générations et des générations plus tôt. Tu aurais pu mourir aussi et passer dans l'éternité bien avant aujourd'hui. Si tu es encore vivant aujourd'hui, c'est que Dieu te veut vivant parce qu'il a encore des choses à faire avec toi ou pour toi ou en toi. Donc le Seigneur ne se presse pas pour t'amener dans l'éternité parce qu'il a encore des choses à accomplir pour toi, en toi ou à travers toi. Mais tu dois savoir que ta capacité à vivre vient à la base du Seigneur. Mais pensons un peu plus loin. Jésus va dire, Ésaïe va dire du Messie aussi. Le souffle du Seigneur est sur moi. Donc l'esprit de vie du Seigneur est sur moi. Le Nouveau Testament va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On va même avoir ce chant qu'on interprète ou qu'on interprétait autrefois assez régulièrement. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On va nous appeler à mourir à nous-mêmes, afin que Christ et la vie de Christ puissent prendre toute la place en nous. Et c'est cette pensée importante pour débuter cette année. Est-ce que l'Esprit de Dieu vit véritablement en toi? Est-ce qu'effectivement l'Esprit de Dieu habite et vit en toi? Si tu cherches l'Esprit de Dieu, si effectivement le Ruach de Dieu vit en toi, si le souffle de vie de Dieu est en toi, tu ne peux plus mener ta vie de la même manière parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi et à travers toi. Donc, un des objectifs pour toi et pour moi cette année, c'est que Christ puisse vivre à travers toi, que Dieu puisse vivre à travers toi. La deuxième chose, c'est que le souffle, dans la pensée judaïque, c'était que c'était le maintien de la vie. C'était non seulement la source de vie, mais c'était aussi le maintien de notre vie. Alors, comme je disais tout à l'heure, si tu es encore vivant aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu t'es gardé en santé, bien qu'il faille se garder en santé, parce qu'il est préférable de vivre dans un corps en forme au maximum de nos capacités, que de vivre dans un corps qui a été affecté par la maladie, d'autant plus si ces troubles-là viennent d'une mauvaise hygiène de vie, ou d'un mauvais maintien de notre santé, de notre pain. Mais là, on parle donc qu'il est la source de vie et qu'il est le maintien de notre vie. Donc Dieu, délibérément, a choisi de te garder en vie parce qu'il a des choses à faire à travers toi. Donc si tu comprends cela, tu vas aussi demander à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux faire à travers moi? Si tu comprends que l'Esprit de Dieu veut demeurer et vivre en toi, c'est parce qu'il veut faire des choses et tu es intéressé à faire en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse en toi. La troisième pensée par rapport au souffle, c'est que le souffle était considéré comme un signe de vie. Très souvent dans le temps, lorsque on n'était pas sûr si quelqu'un était vivant ou non, si une personne respirait encore, on avait ce vieux truc qui était de prendre un miroir et de le mettre sous le nez des gens. Donc la respiration faisait en sorte qu'il y avait une condensation qui se créait sur le miroir. Et ça, c'était signe que la personne n'était pas encore morte. On parle quand quelqu'un est en train d'agoniser, qu'il est dans ses derniers moments, peut-être que la respiration est devenue très lente, très difficile, et là on se demande est-il oui ou non encore vivant. On prenait donc ce miroir et le souffle qui était dégagé par le nez de la personne, par les narines de la personne, était un signe de vie. Le souffle de Dieu devrait être un signe de ta vie. Dieu qui vit à travers toi, Dieu qui amène sa vie à travers toi, devrait être un signe pour tous ceux qui t'entourent que Christ vit en toi, que tu es vivant en Christ, puisque c'est lui qui souffle à travers toi. Quel est le signe que ta vie donne? Ta vie donne-t-elle les signes comme quoi tu es enfant de Dieu? Comme quoi tu es temple du Saint-Esprit, comme quoi tu es habitation du souffle, du Ruach de Dieu. Est-ce que ta vie, lorsqu'on la regarde, lorsqu'on l'examine, est-ce qu'elle démontre effectivement la vie de Christ en toi ou elle démontre autre chose? Qui élève-t-elle? Qui personnifie-t-elle? Qui présente-t-elle au restant de l'humanité? Est-ce que tu présentes Christ à travers ta vie ou tu présentes, et là tu mets ton propre nom, moi je mets mon propre prénom, Florent. Qui je présente à travers mon existence? Est-ce que de moi émane des signes qui prouvent que je suis enfant de Dieu ou de moi rien ne se dégage au niveau spirituel, rien ne se dégage dans mes paroles, rien ne se dégage dans mes gestes, rien ne se dégage dans mes attitudes qui démontrerait que Christ vit en moi. Donc la vie de Christ doit aussi se témoigner à travers ton existence. Vous voyez combien si on s'empare de cette vérité et si on la cherche et si on l'applique effectivement dans notre vie, celle-ci va être complètement transformée. Je vous dirais qu'on démarre en force cette année avec ce simple petit mot, en apparence petit mot, mais qui a tellement d'incidence chez nous. Le souffle de Dieu habite-t-il en toi? Ta vie spirituelle, est-ce qu'elle émane de toi et qu'elle prouve que tu es effectivement habité par l'esprit de vie de Dieu? Mais lorsqu'on parlait du souffle, du terme Ruach aussi, on pouvait le présenter sous différentes formes ou dans le sens de différentes manifestations. On pouvait parler du Ruach comme un souffle qui est coupé. Juste pour que vous ayez une idée. La terminologie juive est très souvent imagée. On prenait des termes qui, dans le sens usuel du mot, étaient une image, tout simplement pour que les gens aient une compréhension plus correcte d'une notion peut-être un peu plus abstraite. Je vous donne un exemple. Être en colère, en hébreu, si on le traduisait littéralement vers le français, ça dirait quelqu'un avec un grand nez. Être en colère, un grand nez. Pourquoi? Parce que quand je suis en colère, je souffle très fort de par mes narines. Peut-être que vous ne le soufflez pas, mais l'image qu'on donnait dans la culture juive, c'est que quelqu'un qui était en colère soufflait très fort par son nez. Donc lorsqu'on va parler du ruach, le ruach va aussi vouloir parler d'un souffle qui est coupé et d'un souffle qui est animé. Un souffle qui est donc associé aux émotions de la personne. On s'entend, lorsque nous sommes excités, on a le cœur battant, on a le souffle un peu coupé, la respiration un peu saccadée, parce qu'on est ému par rapport à une situation. Si l'Esprit de Dieu, l'Esprit vivant de Dieu, habite en toi, ça veut donc dire que tu devrais manifester à travers ta vie le même souffle de Dieu. Et parfois, ce souffle de Dieu est aussi ému et coupé. Dans la pensée judaïque, lorsqu'on disait « l'Esprit de Dieu est sur moi », la personne était en train de dire « les émotions de Dieu, le caractère de Dieu m'habite moi aussi ». Le ruach était associé avec le centre des émotions. On disait que les émotions se trouvent dans la respiration même des gens. Est-ce que les émotions de Dieu t'habitent? Tu vas me dire, mais Dieu a des émotions? Parfaitement. Dieu ne pourrait pas t'aimer s'il n'avait pas d'émotions. Dieu ne pourrait pas avoir de compassion pour cette génération s'il n'avait pas d'émotions. Dieu ne pourrait pas être en colère contre le péché s'il n'avait pas d'émotions. Dieu ne pourrait pas être en colère contre le péché, mais en compassion envers le pécheur s'il n'avait pas d'émotion. Alors la question pour toi et pour moi, est-ce que les émotions de Dieu, est-ce que les sentiments de Dieu m'habitent aussi? Jésus va pleurer sur Jérusalem parce qu'il regarde Jérusalem et il dit Jérusalem est comme un troupeau sans berger. Je me demande si les émotions de Christ nous habitent concernant notre Jérusalem, Montréal, ou peu importe la ville où tu habites, le Québec, si tu veux étendre ça un peu plus largement. Est-ce que les émotions de Dieu envers notre génération t'habitent aussi? Très malheureusement, et je dis vraiment très malheureusement, à un moment donné, on dirait que les chrétiens deviennent des robots très religieux. Et le religieux perd les émotions pour être tout simplement dans une pratique dépourvue de tout le caractère émotif qui représente plutôt une relation interpersonnelle. Et voilà pourquoi certains vont dire, nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans une relation. Il faut l'expliquer ce que ça veut dire. Effectivement, ma relation avec Dieu est une relation interpersonnelle, est une relation entre lui et moi. Je vis cette relation comme je vivrais une relation avec mon prochain, avec mon épouse, avec mon meilleur ami, avec mon collègue. J'ai une relation, un échange entre Dieu. Et très souvent, la religion vient nous priver de tout ce caractère émotif, de toute cette phase ou cette facette émotionnel qu'on devrait avoir dans notre culte personnel et dans notre temps avec Dieu et dans notre relation avec Dieu. Mais plus encore, très souvent, on est tellement omnibulé par notre monde religieux qu'on n'a plus d'émotion par rapport à cette génération-ci. Même si on évangélise, on n'est plus accablé par le sentiment que la majeure partie de cette génération qui est en train de vivre sans Christ se destine à l'enfer pour l'humanité. On dirait que cette pensée ne vient plus nous troubler. On dirait qu'on a tellement entendu parler de cette histoire, qu'on a tellement entendu parler de ces textes et de ces faits, qu'on n'est plus ému par rapport au fait que 99% de Montréal est en train de courir vers l'éternité sans Christ. Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'il y aurait simplement 1% des gens autour de Montréal ou du Québec qui seraient ce qu'on appelle des chrétiens nés de nouveau. Donc, ils auraient expérimenté cette nouvelle naissance. C'est un chiffre qui est arbitraire et on pourrait débattre là-dessus, j'en conviens. Mais venons à un point. Sommes-nous d'accord que la majeure partie de la population de Montréal, du Québec, voire de l'humanité, ne connaît pas Christ et que par conséquent, cette majorité de la population se destine à l'enfer pour l'éternité, hors de la présence de Dieu? Est-ce que ça nous émeut ou ça nous laisse impassibles? Est-ce que ça nous émeut ou ça nous laisse sans aucune réaction? Le religieux, très souvent, n'a plus de ces réactions. Et voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne lorsqu'on parle du bon samaritain. On nous dit qu'à un moment donné, il y a un juif qui tombe au sol, qui a été attaqué par des brigands et on le laisse pour mort. On nous dit qu'il y a un juif qui passe, qui se détourne de lui. On dit qu'il y a un religieux qui passe, qui se détourne de lui. Et on dit que c'est simplement le samaritain qui a un bon cœur, qui s'arrête pour prendre soin de lui. Le religieux s'est éloigné, le religieux s'est détourné de cet homme qui était abattu, qui était laissé pour mort, qui avait besoin de soins. Il n'a pas été ému au point de prendre soin de cette personne. Dieu t'aimait, Dieu était passionné à ton égard, Dieu avait des émotions à ton égard jusqu'au point où il donne effectivement son Fils Christ pour mourir à la croix pour toi et pour moi. Notre Dieu se fait homme, se fait chair, il accepte la croix, il accepte de délaisser son trône de gloire pour toi, pour moi, parce qu'il avait des émotions à ton égard. Si Dieu habite en moi, si le souffle de Dieu habite en moi, alors les émotions qui animent Dieu doivent aussi m'animer. Les émotions qui animent Dieu doivent aussi m'animer. Je vous disais tout à l'heure que le souffle, lorsqu'on parle de quelqu'un qui est en colère, on parle de quelqu'un qui a un grand nez, donc qui a un souffle ardu qui sort de ses narines. La colère de Dieu envers le péché devrait aussi t'animer. Tu devrais détester le péché comme Christ déteste le péché. Tu devrais détester le péché comme celui qui habite en toi déteste le péché. Plus tu vas avoir le souffle de vie de Christ en toi, plus tu vas cultiver l'Esprit de Dieu en toi, plus tu vas laisser de place dans ta vie à l'Esprit de Dieu, plus tu vas détester l'iniquité et plus tu vas aimer le pécheur. C'est important qu'on commence sur cette base cette année. Tout ce qui était de proclamer la liberté aux captifs, de rendre la vue aux aveugles, de guérir le malade, n'était là que parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Je ne pourrais pas me donner ma vie à ces choses. Je ne pourrais pas vouer mon existence à mon prochain, à moins que l'Esprit de Dieu n'habite en moi. Et voilà pourquoi c'est tellement important de comprendre cela en tout début d'année et en tout début de cette année de grâce, pour que la grâce se manifeste à travers toi, pour que la grâce se manifeste par toi, il faut que l'Esprit de Dieu, le Roi, habite en toi. Oui, de surcroît au souffle de vie. Oui, de surcroît aux émotions de Dieu. Oui, au surcroît à la pensée de Dieu qui mène ta vie. Effectivement, le roi veut aussi dire un vent impétueux qui est symbole de puissance. Et c'est important qu'on analyse cela aussi. Le roi, donc souffle de vie, signe de vie, symbole de vie, symbole des émotions de la personne en qui ce souffle habite, mais c'est aussi un symbole de puissance. Le roi de Dieu devrait être la puissance qui t'habite, la puissance qui te fait bouger, la puissance qui agit à travers toi. Et voilà pourquoi on doit diminuer pour que Christ puisse croître. Il nous faut nous abaisser pour que Christ puisse croître en nous. Il faut faire le ménage dans nos vies. Il faut faire le ménage dans les compartiments de nos vies. Nous débarrasser de ce qui prend une place qui devrait revenir à Christ. Essayer de vivre le plus simplement possible en se dépouillant de nous-mêmes, en faisant le vœu de simplicité volontaire, mais au niveau spirituel, en disant « Moi, je me débarrasse de tout ce qui pourrait être une place qui devrait être occupé par Christ, mais que je donne à autre chose. Laisser de plus en plus de place à l'Esprit de Dieu pour que la puissance même de Dieu se manifeste aussi de plus en plus amplement à travers toi. » Enfin, le roi était aussi un symbole d'inspiration divine. Lorsque quelqu'un prophétisait, on disait que le souffle de Dieu se manifestait à travers lui. L'inspiration de Dieu. On a vu tout à l'heure que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam pour que Adam devienne un être vivant. Dieu souffle à travers nous aussi. Dieu inspire sa pensée en travers nous. Dieu inspire en nous son souffle de vie et sa connaissance et les paroles qui émanent de lui. Ce qui va sortir de ta bouche cette année, tu devrais veiller à ce que ce soit ce que Dieu veut qui sorte. Les raisonnements, les pensées que tu peux avoir, les analyses que tu peux faire sur un tas de choses actuellement. L'important, ce n'est pas ce que je pense. L'important, ce n'est pas ce que tu penses. Mais l'important, c'est que c'est ce que Dieu pense. Alors cette année, que Dieu nous inspire, non seulement de son souffle de vie, non seulement de son caractère, non seulement de sa pensée, mais que Dieu nous insuffle aussi de sa puissance et de son inspiration divine. C'est vraiment un message important ce matin. Et je te pose la question, le Ruach de Dieu est-il sur toi? Le souffle de Dieu est-il sur toi? Est-il à la base de ta vie? Est-il effectivement confirmes-tu qu'il est la raison pour laquelle tu es encore en vie? Est-ce qu'il est le signe même de ta vie? Lorsque les gens te regardent, est-ce qu'ils voient effectivement le souffle de vie se manifester à travers toi et te démontrer à leurs yeux comme étant effectivement un récipiendaire, comme étant effectivement l'habitation du souffle vivant de Dieu? Ou ce qu'ils voient de toi, c'est la colère de Florent, c'est l'orgueil de Florent, c'est la pensée de Florent, et tu changes Florent pour ton nom, je me débrouille avec Dieu par moi-même. Et qu'est-ce qui émane de toi, ta personne ou Christ? Enfin, est-ce que tes émotions, tu les laisses de côté pour être habité par les émotions de Dieu? Est-ce que ton caractère moral, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas, ce que tu aimes, ce que tu détestes, est-ce que ce que tu aimes, c'est ce que Dieu aime? Est-ce que ce que tu détestes, c'est effectivement ce que Dieu déteste? Est-ce que le système de valeurs de Dieu, puisqu'il vit en toi, est-ce que son système de valeurs est aussi ton système de valeurs? Et enfin, est-ce que la puissance de Dieu t'habite? Et est-ce que l'inspiration de Dieu t'habite? Je prie pour toi, mon frère. Je prie pour toi, ma sœur, que le roi de Dieu habite en toi. Ton année, le succès de ton année, la pertinence de ton année, la pertinence de ta vie dépend du fait que Dieu vive ou non en toi, à travers toi, et par toi. Si l'Esprit de Dieu ne vit pas en toi, si l'Esprit de Dieu ne vit pas à travers toi, ta vie est vile, ta vie ne sert à rien. Alors je prie pour moi ce matin, mais j'ai vraiment cette émotion en moi ce matin. Je plaide devant Dieu pour dire, Seigneur, non pas moi, mais toi. Non pas moi qui vis, mais toi qui vis à travers moi, Seigneur. Alors prions, et je prie pour vous. Seigneur, quelle Quel enseignement important ce matin pour débuter cette année? Cet enseignement, Seigneur, où nous venons à nous poser la question, est-ce que l'Esprit de Dieu vit véritablement en moi? Est-ce que l'Esprit de Dieu émane véritablement de moi? Est-ce que le souffle de vie se répand effectivement dans ma vie? Est-ce qu'il déborde même? Est-ce qu'il souffle à travers moi vers ceux qui m'entourent? Seigneur, c'est une question tellement importante. Et c'est une décision, Seigneur, tellement importante de te faire toute la place aujourd'hui en ce début d'année. Je prie, Seigneur, pour ma sœur, pour mon frère, mais je prie aussi énormément pour moi-même. Seigneur, je ne veux plus dire que c'est moi qui vis. Je veux dire qu'effectivement, en toute humilité, mais en toute véracité, je veux, Seigneur, que ce soit toi qui vives en moi et à travers moi. Cette année, Seigneur, je comprends que son succès dépend de ta vie en moi. Alors je prie, Seigneur, que ce soit une quête, que mes émotions soient, laissent la place à tes émotions, que ton regard, Seigneur, soit mon regard sur cette ville, sur cette province. Je veux délaisser, Seigneur, ma vue pour prendre, Seigneur, ta vue. Je veux délaisser mon oui pour prendre ton oui. Je veux délaisser mes sentiments pour prendre tes sentiments envers cette génération. Seigneur, tu nous as appelés pour cette époque-ci. Tu nous as appelés pour cette génération-ci, avec la compassion qui t'habite pour cette génération-ci. Seigneur, je ne veux pas être un religieux qui a toutes les belles formules, toutes les belles phrases, mais dont la vie est morte à l'intérieur de lui. Seigneur, tu disais des religieux que leur religion était vile et morte. Je ne veux pas, Seigneur, que ma vie spirituelle soit tout simplement une religion morte. Oui, je veux une relation avec toi, mais une relation si intime que tu vis à travers moi, que tu te manifestes à travers moi. Une vie si intime avec toi que lorsqu'on m'entend, lorsqu'on m'écoute, lorsqu'on me regarde, lorsqu'on me voit, ce ne soit pas moi qu'ils voient, ce ne soit pas moi qu'ils entendent, mais que ce soit Christ qu'ils voient, que ce soit Christ qu'ils entendent. Seigneur, agis dans ma sœur. Agis dans mon frère. Bouscule-nous, Seigneur, par de telles paroles tout au long de cette année, afin, Seigneur, que nos vies soient transformées, révolutionnées, pour être des instruments entre tes mains. Seigneur, je veux être le temple de ton esprit. Je veux être l'habitation de ton esprit. Je veux, Seigneur, que tu puisses toucher à travers moi. Je veux, Seigneur, que tu puisses guérir à travers moi. Je veux, Seigneur, que tu puisses délivrer à travers moi. Pas selon mes forces, pas selon mes capacités, mais en raison, à cause et simplement qu'à cause de toi, Seigneur. Alors vis en moi, Seigneur. Débarrasse-moi, Seigneur, de tout ce qui prend de la place. Débarrasse-moi, Seigneur, de tout ce qui prend ta place. Afin, Seigneur, que ce soit dans mes loisirs, que ce soit dans mes tâches techniques, que ce soit, Seigneur, dans les tâches professionnelles de ma sœur, de mon frère, que ce soit, Seigneur, dans nos vies familiales, dans nos vies conjugales, dans nos vies, Seigneur, sociales, dans nos vies de citoyens, que ce soit toi qui vives à travers nous. C'est notre simple prière en ce matin, Seigneur. Bénis mon frère et bénis ma sœur. Arrose cette parole et qu'elle puisse prendre même des dimensions encore plus grandes dans la vie de ma sœur et de mon frère. Je les bénis en ton nom. Nous avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, permettez-moi de saluer quelques personnes. Je remonte un peu. Je me rappelle qui était la dernière personne que j'ai saluée. bonjour à Babette, on l'a saluée, mais je la resalue. Bonjour Babette. Bonjour à Rosie. Bonjour au frère Edwin et à la sœur Heidi. Bonjour à Denise et à Gérard. Bonjour à Marie-Huguette. Bonjour à la sœur Teresa. Bonjour à Jocelyne et à Jacques. Bonjour à Ginette et à Gaëtan. Bonjour à Jude et Caridad. Bonjour Linda. Bonjour à la sœur Susanna et à son époux. Bonjour à la sœur Diana. On a déjà salué son époux tout à l'heure. Bonjour à Nadège. Bonjour à Maggie. Bonjour à Charlotte Lheureux Lemieux. Bonjour au frère Max, à la sœur Noémie. Bonjour à Didier. Bonjour à Sonny. Bonjour à Camille. Bonjour à Farley et à sa maman Marie-André. Bonjour à Florie et à Louis. Bonjour à Aurélia. Bonjour à Josette. Bonjour au frère Frédéric et à son épouse et à toute la petite famille qui les entoure dans ces temps-ci. Bonjour à la sœur Rosa. Bonjour à Ramon, à Evelyne. Bonjour à Andrés et Samantha. Alors voilà, on a salué tout le monde ce matin. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve donc demain matin pour le jour numéro 3 de notre périple de 50 jours. On rappelle ces 50 jours où on se promène dans les deux passages connexes de l'Ancien Testament, Ésaïe 61 et puis Luc chapitre 4. Donc ces deux passages qui sont connexes, on les étudie pendant 50 jours pour débuter cette année du jubilé, cette année du 50e anniversaire de l'Église. Alors, j'espère que vous avez été bénis par ce premier enseignement, que Dieu soit avec vous tout au long de la journée, et on se retrouve donc ceux qui ne savent pas, on a quand même l'étude ou le cours avec le pasteur André ce soir à 19h, donc cours sur le livre des Actes, encore une façon de, plus on étudie, plus on laisse la parole de Dieu pénétrer en nous, plus le souffle de Dieu vit à travers nous. Donc ce soir avec le pasteur André à 19h heure de Montréal, et sinon on se retrouve demain pour notre prochaine bénédiction à 8h30 comme d'habitude. Que Dieu vous bénisse et à demain. Au revoir tout le monde.